la nuit. J'finis, j'revis en Yougoslavie. J'passe autant de la vie sans souci. La nuit, j'refais ma vie ici en Yougoslavie. Qu'importe si le taxi m'emporte de porte à porte jusqu'en Yougoslavie. Je passe autant de la vie sans souci. Je décolle d'alcool, je survole les pays d'eau de vie. Je passe les douanes d'Allemagne de l'ouest à l'est, à l'Autriche-Hongrie. Gère en somnambule les circules sous la veste comme un tract interdit. Je m'enveloppe timbré dans l'ivresse, je me poste à la frontière de Serbie. Sur les berges de Belgrade, je plonge, je me liquéfie. Je me donne aux damnés du Danube, je dérive et vogue jusqu'en Bosnie. Embrasse vers la Slovénie, je finis en chien en Dalmatie. Debout, couché, accro. Porte à porte, l'alcool m'emporte loin de l'Europe, loin de l'Asie. Je passe autant de la vie sans souci. La nuit, je finis la nuit, je revis en Yougoslavie. Soufflé par l'air d'une tempête de trompettes, je trinque à la vie. L'hypnose d'un chant de sirène macédonienne me plonge dans l'autre vie. Je m'enfonce dans le passé yougoslave, je salue Tito, Tesla et je brave les embargos, les colonies. Descente de Monténégro, tremblement de verre à Kotor, un dernier coup au Kosovo, dernier plongeon dans le folklore. Un spleen yougo nostalgique, qu'importe si de porte à porte l'alcool m'emporte loin de l'Europe, loin de l'Asie. Je passe autant de la vie sans souci. La nuit, je finis la nuit. La vie.
Et c'était Yougoslavie du groupe La Caravane Passe. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM. Nous sommes en direct du Théâtre de Mende à l'occasion de la seconde édition du festival Solidarité et Culture organisé par l'ALPA, l'association L'un pour l'autre. Nous avons d'ailleurs avec nous la présidente de l'association, Sabrina Moclis. Bonjour Sabrina.
Bonjour 48FM.
Un festival culturel dont l'objectif est de promouvoir une association caritative locale et de récolter des dons à son profit à travers l'organisation d'événements. Et après la Ligue contre le cancer l'an dernier, place cette année au Secours populaire. Pour le comité de la Lozère, autour de cette table, Jean-Pierre Kircher, bonjour.
Bonjour.
Les parrains de cette édition, le groupe La Caravane Passe avec Thomas qui est là avec nous. Salut Thomas.
Bonjour.
Et enfin, Souliste qui s'est produit à la soirée du Tour de France, à la soirée des étudiants avec l'ALPA et qui va assurer cette année les Intersènes. Il est partout. Salut.
Bonjour.
Alors place à la présidente quand même pour commencer. Amener la culture à tous les publics, soutenir les structures sociales caritatives, c'est l'objectif de l'ALPA.
Exactement. Non, je plaisante, oui.
Il faut me dire ça que me dire non, parce que sinon...
Oui, non, c'est totalement l'objectif. On a plusieurs axes. C'est vraiment une association qui vit vraiment toute l'année. Donc le festival est un des gros temps forts, mais en fait, en dehors de ça, on a le Noël solidaire qui est bien connu du public, dont le principe est de faire un appel à la population pour créer des boîtes des boîtes cadeaux pour des enfants, des adultes aussi, et que nous on redistribue à l'échelle du département à des associations caritatives ou des structures sociales. On a la tournée solidaire de l'ALPA qui est un spectacle offert gratuit à des structures pareilles sociales solidaires. Et on a également les ateliers solidaires où on va dans ces mêmes structures pour proposer des ateliers artistiques, donc chant, danse, théâtre, tout ce qui est possible, envisageable au sein de la structure, et autant que faire se peut de développer toute cette partie-là au sein du département.
Voilà, des ateliers avec des partenaires, on peut en citer, hein, on peut les citer d'ailleurs.
Oui, le CADA, la Maison Solidaire, la Traverse, encore des développements, du développement en cours.
Alors, il y avait l'inauguration du festival hier avec un défilé spectacle. Comment ça s'est passé ?
Très très bien. On a eu près de 350 personnes sur place, donc c'était une belle ouverture. Voilà, avec le comédien Daniel Monino qui nous a mené ça d'une main de maître. Voilà, avec Souliste ici présent pour animer aussi ce défilé puis l'after. Et voilà, donc tout le monde était très très content, tout le monde s'est régalé. Je pense que c'était un très beau lancement pour le festival.
Alors on va revenir sur ce moment phare de l'association, ce festival, donc de l'argent qui va pouvoir être versé à une association caritative choisie, en l'occurrence le Secours Populaire. C'est également le moyen de mettre en lumière cette association, c'est ça ? Jean-Pierre,
vas-y. Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'est réellement une vitrine. C'est au travers de ce que l'on organise nous, et notamment ce qui est notre ADN, c'est la solidarité. Et on a à nos côtés, avec l'ALPA, une association qui va un petit peu dans le même sens que nous, avec cette idée de faire que de plus en plus, finalement, les gens se préoccupent de leurs voisins, essayent de voir comment, effectivement, faire en sorte que un petit accompagnement, parfois, peut débloquer une situation avant qu'elle arrive à un terme dramatique. Donc voilà, c'est pour nous important, et puis c'est un peu sortir du cadre de nos locaux, c'est aussi externaliser finalement ce que sont nos fondamentaux, parce que il y a une petite phrase qui résume finalement ce qu'est le Secours Populaire, c'est que tout ce qui est humain est notre. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut remettre l'humain au centre de nos préoccupations quotidiennes. Et quand on élargit nos potentialité, quand on s'associe à d'autres associations, évidemment le cadre s'élargit et ça nous permet d'avoir une audience encore beaucoup plus importante. Et hier, c'était remarquable parce que 350 personnes et donné quelques éléments d'information sur ce qu'est le Secours Populaire et ce que sont les actions qu'il organise. Mais pour nous, c'était la panacée, quoi. Et on a eu beaucoup de bonheur, à participer à cette soirée. Donc voilà, c'est des événements qui sont pour nous importants.
Tu le dis, tu parles d'action, c'est un des objets de l'ALPA, c'est de mettre en lumière aussi, d'expliquer que font ces associations. C'est vrai que c'est des noms que tout le monde connaît, la Ligue contre le cancer, le Secours Populaire et autres. On s'est rendu compte l'an dernier que la Ligue contre le cancer, on n'était pas au courant de tout ce qu'ils faisaient au quotidien, tous ces ateliers pour aider les personnes atteintes de cancer ou même les aidants familiaux et autres. Que fait le Secours Populaire au quotidien ?
Alors c'est vrai qu'on est connu, comme tu le disais, on est connu surtout pour l'aide alimentaire que l'on dispense sur le département. Mais en fait, on est plutôt, nous, une association généraliste de la solidarité. On développe, tout ce qui peut permettre de réduire les inégalités d'accès, que ce soit à la santé, aux vacances, aux loisirs, et notamment à la culture. Parce que pour nous, tous ces éléments sont, structurants pour les personnes que l'on accueille. Et plutôt que de les marginaliser, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire en sorte qu'ils s'intègrent, mais qu'ils s'intègrent en tant que citoyens au même titre que tous les autres, qu'ils ne restent pas au bord du chemin. Et pour nous, l'objectif de l'ALPA, qui est aussi de travailler à la réduction de ces inégalités d'accès, et notamment par rapport à la culture, pour nous, c'est important. Alors après, on le fait à notre niveau, on le fait en fonction, de nos ressources bénévoles. c'est pas évident de partout multiplier les actions, multiplier les projets, parce que ça demande un investissement important des bénévoles. Et c'est vrai qu'on peut les remercier là aujourd'hui de leur présence et du fait que s'ils n'étaient pas là, ce que l'on fait, en fait, d'une part, n'aurait pas de sens, mais ne pourrait pas s'organiser. Nous, c'est à peu près une centaine de bénévoles. On travaille sur l'aide alimentaire, mais en même temps, on essaye d'élargir cette aide alimentaire. On essaye de travailler avec des producteurs locaux. On essaye de réfléchir à de nouvelles formes de solidarité alimentaire. Parce que c'est aussi, en termes, par exemple, de prévention de la santé, bien manger, avec une alimentation équilibrée, saine et durable. C'est aussi faire en sorte que les gens se protègent de certaines maladies. Et notamment, on le sait, hein, parce que les statistiques le montrent, c'est dans les couches donc les plus défavorisées qu'on a le plus grand nombre, finalement, de gens frappés par l'obésité. Donc voilà, pour nous, c'est aussi important. Ce sont tous ces petits éléments que l'on rajoute comme ça et qui font que, on essaye d'être le plus proche possible, je dirais, des besoins qui sont exprimés par les personnes que l'on accueille, mais aussi, de faire d'autres propositions, ne serait-ce que pour réduire ces inégalités, quoi.
C'est vrai qu'on pense aux plus démunis, on pense souvent à l'aide alimentaire, au chèque énergie, à tout ça, Thomas. C'est intéressant ce que dit Jean-Pierre, on pense pas souvent à la culture, alors que c'est essentiel de permettre aux personnes qui sont peut-être plus démunies d'avoir aussi accès à la culture.
Ah bah c'est sûr, nous avec la Caravane Passe, un des discours qu'on tient depuis toujours, c'est que la culture et la musique créent du lien social. Et effectivement, les gens qui sont déconnectés de culture sont en perte de lien social. Donc c'est sûr que ça fait partie de la lutte, ou du moins d'un des objectifs de la musique, et en particulier des musiques traditionnelles que les gens ont beaucoup oubliées en France et en Occident en général, qui sont vraiment des moments de partage, quoi. Et d'ailleurs, nous, c'est drôle, quand on avait commencé, alors on n'a pas travaillé avec le Secours Populaire au début, nous on a travaillé avec Emmaüs, et le premier job qui fait qu'on est devenu intermittent, c'est qu'on allait jouer dans les foyers Emmaüs, on allait jouer dans les foyers SDF, enfin, qui étaient principalement remplis de ce qu'on appelait à l'époque des sans-papiers, qu'aujourd'hui on appelle des migrants. Et donc nous on allait 3-4 fois par mois, pour jouer dans la salle de télé en acoustique, pour leur remonter le moral les jours les plus difficiles. Et on voit bien que on arrivait déjà à leur dire on va éteindre les informations derrière. Déjà ça, ils comprenaient pas au début, et puis après petit à petit ça rentrait, etc. Et puis retrouver du sourire, sachant que on nous appelait les jours où en gros ils allaient être mis dehors, hein, donc
c'était pas le meilleur moment, c'était pas idéal.
C'est sûr. Et effectivement la musique et la culture en général a ce pouvoir là en tout cas de donner un peu de force et de créer du lien social, vraiment, de créer du lien social, arriver à faire danser des gens les uns avec les autres quand ils se connaissent pas forcément, en période post-pandémie, c'est pas mal.
Du coup, j'imagine que c'est important pour toi de te retrouver ici dans un festival qui met la solidarité en avant.
Ah bah ouais, ça a beaucoup de sens, effectivement. On le fait pas tant que ça, on le fait évidemment au maximum, mais on le fait pas tant que ça, on le fait pas assez en tout cas. Et puis le Secours Populaire en particulier, enfin pour moi dans mon histoire personnelle, ça a beaucoup de sens parce que je suis d'une famille de militants de génération en génération, et puis je me souviens très bien gamin qu'on allait tout le temps faire s'il y avait les tombolas du Secours Populaire, je me souviens, où j'étais dégoûté quand je partais avec un filet garni parce que moi je voulais c'est les souvenirs de la fête de l'Huma, les tombolas, la fête de l'Huma, voilà, donc on avait toujours les badges avec le Secours Populaire, donc ça a beaucoup de sens, personnellement.
7 lieux d'implantation, Lozère, le Secours Populaire, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. En fait, on a ce que l'on appelle, nous, des antennes. Donc, on a 6 antennes et un comité amende. Et ce qui est assez nouveau, c'est qu'on a maintenant un accueil de jour qui est à Langogne. Sur Langogne, on a 2 structures, en fait. Une antenne avec un libre service de produits frais. C'est ce que je disais. On essaye donc de diversifier. On a la chance, là, sur ce territoire, d'avoir des élus qui ont une volonté politique assez affirmée, notamment pour tout ce qui participe de faciliter l'accès à des produits sains et durables. Donc ça, c'est inscrit dans leur plan alimentaire de territoire. Donc ça nous a facilité l'installation de ce libre service à Langogne. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien, à tel point qu'on a malheureusement beaucoup de personnes quoi, qui viennent retirer des légumes, des fruits. Et on sait aujourd'hui, malheureusement, qu'avec l'inflation, tous les biens de consommation ont sévèrement augmenté. Donc nous, avec 3 euros, les gens partent avec un kilo, avec des kilos de légumes. Enfin bon, voilà, c'est pour ces raisons qu'effectivement, toutes les actions, tous les événements qui peuvent être organisés et qui nous permettent à la fois de nous faire connaître et de nous faire reconnaître, mais aussi d'interpeller les gens. Moi, je n'oublie jamais d'expliquer aux gens que le Secours Populaire, c'est sur le département 350 donateurs, et que à ce titre, évidemment, on fait des appels aux dons, parce que on a une grande partie de nos ressources financières qui proviennent de ces dons privés. Ce qui, en même temps, nous permet de conserver une indépendance par rapport aux pouvoirs publics. C'est pas ostraciser les pouvoirs publics, c'est tout simplement rappeler qu'on est une association avec un fonctionnement démocratique et qu'à ce titre, ce sont ceux qui font la solidarité qui ont le droit de pouvoir s'exprimer dans notre association. Et puis on a, nous, la possibilité, parce que ça c'est y compris inscrit dans nos statuts, d'ouvrir nos antennes aux personnes que l'on accueille. C'est-à-dire que les gens que l'on accueille, ils peuvent devenir des bénévoles. Ils peuvent rejoindre les équipes de bénévoles. Et c'est une façon, comme tu le disais, de créer du lien social, de faire en sorte qu'ils brisent l'isolement dans lequel parfois ils se retrouvent, notamment pour toutes les personnes seules. Et donc c'est aussi une façon de leur conserver leur dignité, de leur redonner l'estime de soi. C'est pour nous quelque chose d'assez important, parce que bien qu'aujourd'hui ce soit difficile de dire ça, si on travaille sur l'éducation populaire en utilisant les préceptes de l'éducation populaire, donc voilà, on essaye autant que faire se peut de travailler de cette façon-là, quoi, plutôt que d'enfermer les gens. On le verra tout à l'heure, puisqu'on fait un débat, enfin une conférence sur l'aide alimentaire. Et ça va questionner, parce que on va projeter un film là que le CIVAM a, un documentaire que le CIVAM a créé, et qui justement, le CIVAM c'est une association de producteurs qui sont dans une démarche un peu opposée à l'agriculture industrielle et qui réinterrogent l'aide alimentaire telle qu'elle existe en France. Et c'est vrai qu'il y a des propositions qui sont faites. Eux, ils parlent de sécurité sociale, de l'alimentation. Enfin, bon, voilà, il y a des choses comme ça qui vont provoquer, je l'espère, des réactions du public. Donc voilà, nous, c'est pour nous fondamental de travailler avec des associations comme l'ALPA et d'élargir notre réseau de partenaires, parce que le réseau solidaire, plus il sera large, et plus on aura de chances, effectivement, de pouvoir, petit à petit, faire que chacun se préoccupe de l'autre. Et notamment, tu rappelais, par rapport aujourd'hui, par rapport aux migrants, par rapport au vivre ensemble, par rapport à des réactions un peu épidermiques de certaines personnes qui sombrent dans le racisme, la xénophobie. Donc voilà, aujourd'hui on a réellement un combat à mener, quoi, pour que chacun puisse à la fois s'exprimer et puis vivre à côté de quelqu'un qui n'a pas la même religion, n'a pas la même couleur de peau. Sinon ça va être dans les années à venir insupportable.
D'ailleurs, on est dans la seconde édition de la semaine des étrangers primo-arrivants cette semaine. On est allé rencontrer, nous, toute cette semaine, 48 FM, sur le territoire des étrangers primo-arrivants, les associations qui les aident, la Traverse, l'OS, le France Terre d'Asile et autres. On vous invite à aller écouter sur notre en podcast un peu. Il y a des très, très beaux témoignages. C'est vraiment, il faut aller vers ces personnes. Il y a énormément à découvrir, il y a énormément de richesses à rencontrer l'autre. Tu parlais de... C'est à 18h, Sabrina, la conférence.
C'est à 18h, la conférence, oui.
C'est où ? C'est à l'espace événement ?
Au rez-de-chaussée de l'espace événement, oui.
D'accord. Tu parlais du problème alimentaire. Vous sortez un baromètre Ipsos Secours Populaire chaque année. C'était le 16e cette année. Sur les chiffres, je vois 37% des gens qui ont répondu peinent à consommer des fruits et légumes frais tous les jours. Seul un peu moins d'une personne sur deux arrive de mettre de l'argent de côté. Enfin, il y a des chiffres vraiment effarants.
Oui. Ah oui, ce baromètre est une façon de mesurer comment les gens se représentent la pauvreté et la précarité. Donc c'est un sentiment qui est exprimé par ces personnes qui parfois fait apparaître des choses différentes des chiffres qui sont annoncés en termes de seuil de pauvreté. Par exemple, nous on remarque chaque année qu'il y a des décalages. L'INSEE annonce un chiffre et puis ce que disent les gens est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il est toujours un peu plus bas, parce que c'est vrai que...
Et surtout avec l'augmentation, avec l'inflation, oui. Au fur et à mesure...
Oui, on se rend compte aujourd'hui que l'inflation malheureusement impacte encore beaucoup plus les personnes qui sont en situation de précarité, de pauvreté. C'est sûr, hein, on a nous de plus en plus là, de demandes d'aide pour du carburant, pour le chauffage, bientôt ça va arriver, hein, parce que le premier trimestre 2023 va être dramatique. Quand on voit les augmentations que subissent malheureusement l'énergie. Donc ça, c'est sûr, ce baromètre est assez important pour nous, parce que ça permet d'analyser un petit peu là où en sont les Français. Il y a les adultes, il y a aussi les enfants. Et les enfants constatent aussi que dans la cour de l'école, eh bien, ils ont parfois un copain qui est dans la pauvreté. On sait qu'il y a toujours un adulte ou une famille sur trois qui part en vacances. Parce que là aussi, nous, on agit. On agit pour que, effectivement, les gens ils puissent avoir une semaine où ils vont sortir de leur quotidien, partager des moments de bonheur en famille, aller dans un autre lieu, découvrir de nouvelles personnes... Donc voilà, ça aussi pour nous c'est important. Quand on peut pas les envoyer, après on fait la journée des oubliés des vacances, donc ça permet de compenser. Mais c'est vrai, hein, au fil des années là, puisque ce baromètre il a 16 ans, on voit tout à fait l'évolution. Et en fait c'est quand même assez inquiétant parce que c'est révélateur de là où en sont les Français. Eu égard à la pauvreté sur le territoire national.
Concernant les enfants, oui, l'enseignement principal de cette étude, de ce 16e baromètre, c'est de montrer que les enfants considèrent la pauvreté comme quelque chose de présent, alors qu'avant, elle était plus souvent considérée comme lointaine et même parfois absente de leur univers.
Tout à fait. Tout à fait, ce qui prouve que effectivement ça gagne, et que au travers de ce que découvrent les enfants au quotidien, la pauvreté apparaît, et ça les amène, y compris parce qu'il y a une question qui leur a été posée concernant la possibilité pour eux de s'investir. Et je crois que j'ai pas le chiffre en tête là, mais il y a une quarantaine, je crois que c'est 40% ou de gamins qui disent qu'ils sont prêts à s'investir. Et nous, on le mesure d'autant plus que il y a 30 ans, on a créé un mouvement qui s'appelle Copains du Monde et qui réunit des gamins et ces enfants. D'une part, ils sont inclus dans le fonctionnement de nos instances, on leur donne la parole, ils prennent des responsabilités. Ils sont capables d'aller, par exemple, faire des collectes. On a vu des choses assez exceptionnelles, quoi. Et ce qui est important, c'est aussi le fait de, parce que le Secours Populaire agit aussi à l'extérieur et au niveau international, il y a énormément de projets qui sont menés. Et donc, il y a des villages copains du monde qui sont organisés, ce qui nous permet. Ce qui nous permet de faire venir des enfants de pays avec lesquels nous on a des projets, c'est-à-dire qu'on fonctionne jamais sans une association locale, c'est-à-dire que nous on décide pas pour eux, hein. On apporte des moyens financiers et on a des dons d'ailleurs qui sont fléchés. Il y a des gens qui nous disent, moi je voudrais. On a par exemple un donateur dans le département qui chaque année nous fait un don pour la Palestine.
D'accord.
Voilà, le don est fléché, donc nous on le fait passer au national, qui travaille avec une association palestinienne Et donc cet argent est investi en Palestine. Pour nous, c'est hyper important quoi, de faire comprendre aux donateurs que réellement, ce qu'ils nous demandent est appliqué. Sinon, demain, ils vont plus rien nous donner.
Et quel pays, Palestine, il y a quoi comme autre pays?
Il y a, je crois qu'on a à peu près 60 pays en direction desquels le secours populaire intervient.
Okay.
Donc c'est à peu près 100, plus de 120 ou 130 projets qui sont menés. Souvent des projets de développement, mais qui correspondent aux besoins locaux. Nous, on n'a pas la science infuse et puis on ne veut surtout pas intervenir à la place des gens. Donc, on travaille toujours avec une association locale. Et ça permet aussi, parce qu'on le sait pertinemment, selon les pays dans lesquels on envoie de l'argent, on n'a pas toujours la certitude que l'argent est bien utilisé. Donc là, au moins, on sait que l'association va, va bien utiliser l'argent.
Tu disais que les enfants étaient prêts à s'investir. Il y a un chiffre qui est intéressant parce que tout n'est pas noir non plus dans ce monde.
Non.
Il y a, dans cette enquête... Thomas ou Liste, vous pouvez peut-être réagir dessus aussi. Les Français sont toujours aussi nombreux à être disposés à s'impliquer pour aider leurs proches, leurs voisins, leurs concitoyens en situation de précarité. Il y a un chiffre qui ressort, c'est 65% des personnes interrogées sont prêtes à s'impliquer. Ça, je trouve ce chiffre aussi énorme.
Oui.
Et je trouve ça fabuleux que malgré les problèmes auxquels la société est confrontée, on voit qu'il y a quand même de la solidarité qui existe. Je ne sais pas si vous le rencontrez tous les jours.
Prêts à le faire.
Oui, après la question, est-ce qu'ils le font ?
Je pense que la plupart des gens sont pour la paix dans le monde. Hein.
Oui.
Le problème, c'est que le petit nombre qui est contre.
c'est quand même. Oui, oui. Il y a quand même 35% de gens qui sont capables de dire moi, jamais de la vie, je suis prêt à aider quelqu'un.
Faut pas le voir de ce côté-là.
Le verre à moitié plein.
Il faut pas se
voir. Je pense que c'est surtout, c'est que les gens sont prêts à le faire, mais il faut les accompagner, en fait.
Oui, c'est ça.
On le voit à travers l'ALPA, notamment le Noël solidaire, où tout le monde se dit que c'est... Le Noël solidaire, c'est une opération qui est nationale. Donc, nous, on n'a fait que reprendre quelque chose qui existait, qui n'existait pas sur le territoire. Les gens trouvent ça super de manière générale, mais ils n'auraient pas eu, ils le feraient pas d'instinct. Donc, y a un besoin d'accompagnement là-dessus, un accompagnement à la solidarité.
En Lozère, quelle est la situation par rapport au niveau national? On est sur un territoire hyper rural, c'est pareil.
C'est pareil. On échange nous avec les autres départements, avec les autres fédérations, et il y a à peu près les mêmes phénomènes. Je crois que le taux de pauvreté dans le département, il avoisine les 14%, donc on est proche du chiffre, puisque on sait pertinemment que en France, c'est 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est pas anodin. Et ce qui est plus difficile dans le département, c'est que la démographie étant relativement faible, il n'y a pas l'effet de massification qui fait que les gens disparaissent dans la foule, dans des petits hameaux du côté de Villefort. Avec un solidaribus, avec un gros logo du Secours Populaire, en mettant des flammes et tout. Quand on arrivait dans les hameaux, ben les gens ne sortaient pas de chez eux. C'est difficile.
Oui,
quand on est trois habitants dans un hameau, de faire en sorte que son voisin découvre qu'on est un peu dans la panade. Donc ça, ça rend effectivement beaucoup plus difficile nos interventions et surtout le fait d'aller vers les gens, quoi, et de franchir la porte d'une permanence, c'est pas facile. Hein.
On a vu, notamment avec la période sanitaire, le Covid, et par rapport par exemple au Resto du Cœur, qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui venaient demander de l'aide alimentaire qu'auparavant. Oui. C'est quelque chose que vous voyez aussi au Secours Populaire, ce rajeunissement de...
Oui. Oui, tout à fait. Mais on a les deux extrêmes qui commencent à s'augmenter de plus en plus, les étudiants et les personnes âgées. Les seniors qui sont à la retraite avec des retraites pas suffisamment élevées. Nous, on a moins subi ce contre-coup dans le département parce que le nombre d'étudiants est moins important. Mais il y a des endroits où on a échangé, nous, par exemple, avec les départements limitrophes que sont le Gard et l'Hérault, et ils ont été submergés par les étudiants qui se retrouvaient sans rien, quoi. Et on a, nous, bon, après, il y a la situation des élèves qui sont en BTS dans le département. On en voit, nous, maintenant sur Langogne, qui viennent nous voir parce que ils ont très peu d'argent pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, c'est vraiment une réalité. Alors oui, le Covid a renforcé la visibilité et a provoqué finalement cette crise. Mais voilà, elle persiste, quoi. Et on sent qu'il y a malheureusement encore beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de précarité tout en étant étudiants, quoi.
Merci Jean-Pierre, on va revenir avec vous après sur les conférences. On va faire une petite pause musicale pour parler musique, pour parler spectacle, ce qui va être proposé ce week-end. On vous attend nombreux, hein. Vous avez entendu, ça va servir à quelque chose de venir et se régaler avec les groupes présents et aussi pour faire une bonne cause. On a entendu Yougoslavie, la caravane passe, on va faire une pause avec Guts qui joue également ce soir. Et on reviendra après avec Thomas pour qu'il nous parle un peu de son groupe, du nouvel album qui est sorti en 2020. Tiens, bonne idée de sortir un album en 2020 pour le promouvoir sur les routes.
Surtout qu'il s'appelle Nomadic Spirit.
En plus, vous avez tout juste. On verra avec Souliste après. Allez, on revient de suite.
Thank you.
Allez, on est de retour de seconde partie d'émission. Hop, on va mettre sur pause, toujours avec Sabrina qui est là pour l'ALPA. On est au festival Solidarité et Culture, le Secours Populaire, Jean-Pierre Kircher. On a Souliste qui est présent et aussi Thomas qui va jouer en premier à 21h pétante, il paraît.
Ouais.
Sans retard, c'est
bien
ça. On
n'est pas seul avec la caravane passe.
Avec la caravane passe. Un sixième album qui est sorti en 2020, on le disait juste avant la pause, qu'on commence à défendre maintenant, parce qu'il y a eu un grand moment où on ne pouvait pas se produire. Un moment compliqué d'ailleurs, j'imagine, pour vous.
Oui, ça a été compliqué parce que depuis... moi, j'ai monté le groupe à la fin de l'année 2000. Et entre 2000 et le confinement, on a toujours tourné toute l'année. Entre 50 et 100 concerts par an, en France, dans le monde entier, avec un tiers, un quart de concerts à l'étranger, quoi, selon les années. Et je me suis rendu compte, quand il y a eu le premier confinement, qu'en fait, ça faisait 20 ans que je n'avais pas passé 15 jours de suite dans mon lit. 15 jours, et d'un coup, on est tous confinés comme ça. Donc ça a été compliqué. En plus, on avait cette sortie d'album en plein milieu de tout ça, qui s'appelle Nomadic Spirit, donc on ne pouvait pas être tant nomade que ça à ce moment-là. Et finalement, on l'a vécu pas si mal, parce que on était au Maroc juste avant le confinement, on tournait le clip de Nomadic Spirit, la chanson qu'on a fait avec Medina Souli, qui est un Gnawa de la région d'Agadir. Et on a passé une semaine là-bas, dans le désert, à la mer, à la montagne, là, là. Et puis on rentre, le Maroc a fermé 8 heures après ses frontières, et on rentrait le vendredi soir, et le lundi c'était le premier confinement. Donc on a quand même pu prendre une petite bouffée d'oxygène.
Mais il aura fallu ça, parce qu'après ça a duré. Hein.
Voilà, après ça a duré. Et là, j'ai contacté chaque musicien, parce qu'on n'est pas tous à Paris, on est entre Paris et Perpignan. J'aurais dit, ça vous dit, on se fait un petit challenge, on fait une fanfare, chacun chez soi. Et c'était vraiment le premier jour du confinement. Donc on s'est filmé chacun. Donc la fanfare, c'est une tradition particulière, il faut vraiment avoir la personne à côté de lui pour jouer. Donc même en s'envoyant des vidéos, c'est pas idéal. On s'est dit, on va voir ce que ça donne. On passe le truc, c'était vraiment pour faire un pied de nez à la situation. Et finalement, on a été surpris du nombre de partages, etc. Et ça nous a motivés. On a passé tout le confinement à faire des vidéos toutes les semaines, comme ça, en invitant plein de musiciens, en faisant plein de trucs. Donc on s'est quand même rendu utile. On a joué notre album de cette façon-là. Ce qui fait que quand il y a eu des petites fenêtres d'ouverture, on a monté, par exemple, le premier été, moi j'ai monté un festival au Cabaret Sauvage en invitant tous les gens avec qui on avait fait des vidéos à venir faire leur propre show. C'était un festival gratuit. L'année d'après, on a refait la même chose au Cabaret Sauvage, mais tous les jeudis sur tout l'été. Bon voilà, on a pu finalement, dès qu'il y a eu des fenêtres qui sont réouvertes, retourner. Et là, depuis cette année, depuis même fin d'année dernière, on a enfin pu retourner pour de vrai, avec beaucoup de dates en France et beaucoup de dates à l'étranger. On a fait une belle tournée en Algérie, on a joué en Irak aussi, on a joué en Allemagne, en Turquie, là on va en Espagne, en Nouvelle-Calédonie. Bon bref, ça reprend. Et on peut amener, on a l'impression de retourner un petit peu dans ce qui est l'ADN du groupe, c'est-à-dire la tournée. Quoi.
Ça t'a pas donné envie de lever le pied ? Il y a certaines personnes, du coup, qui se sont dit, mais je me suis jamais posé, finalement, c'est pas si mal que ça.
Ouais, non. Non, non, pas du tout. Non, 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 au contraire, c'était assez difficile à vivre. En plus, c'est un sixième album. On est dans une période où l'industrie de la musique en France, elle est quand même très, très fermée. L'accès aux médias et même aux réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on croit, est de plus en plus cloisonné. Bon, voilà, on est un groupe qui avons 20 ans. Arriver avec cet album, se dire on va mettre le paquet, et puis finalement qu'on se retrouve à ne pas pouvoir être confiné, ça. Non, ça nous a plutôt donné envie de lutter encore plus, parce que passer à autre chose, ce serait jeter l'éponge.
Ça reste le thème principal de cet album, le voyage ?
Ouais, Ouais, d'ailleurs, c'est un album qui a été fait principalement quand je réalise entre autres les albums de la caravane, et je m'étais posé à chaque album on essaie de trouver une couleur différente. On a fait des albums très acoustiques, on a fait des albums très électro, on a fait des albums avec beaucoup de hip-hop, des albums avec beaucoup de chansons, etc. La caravane passe, ça permet de regrouper tout ça et toutes les influences des musiques du monde en général. Et là, je m'étais posé la question sur comment le faire. Et en fait, on sortait d'une belle tournée de 3 ans, quelque chose comme ça, où on avait pareil fait des beaux tours du monde. Et à chaque fois, en fait, comme on est des grands passionnés d'instruments, on chine des instruments de musique traditionnels qu'on apprend à jouer sur place, où on les rapporte, etc. Et finalement, j'ai trouvé ça comme fil conducteur. C'est un album qui a été fabriqué avec de façon moderne, parce que je produis quand même avec des outils modernes, mais avec des sons d'instruments traditionnels ramenés de voyages, de tournées en particulier.
Quoi. C'est intéressant, quoi, comme style d'instrument, justement.
Alors, il y a beaucoup de choses. Bon, moi, je ramène beaucoup d'instruments à cordes, des mandolines qui ont des noms différents selon les pays. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, des Balkans en général, de Grèce, de Turquie, des sazes de Turquie, des flûtes d'un petit peu partout. Hughes, le deuxième chanteur du groupe et tromboniste, lui, il joue des coquillages, des conques. Donc il ramenait des conques de Nouvelle-Calédonie, du Japon quand on y était, etc. Des choses comme ça. Le sax, il ramène des flûtes, des percus, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et ramener aussi des musiciens aussi additionnels, des musiciens traditionnels sur des morceaux assez modernes. Voilà, on a fait beaucoup ça. On a été chercher des nouveaux guests aussi parce que on avait des guests de prédilection qui sont plus forcément là. On travaillait beaucoup avec Rachita qui est parti. J'avais pas envie d'aller rechercher un autre ancien pour faire genre il y a plus Rachid là. Et finalement voilà, en cherchant, j'ai trouvé Mehdi Nassouli qui est un jeune Gnawa plein d'énergie. Et voilà, un vrai plaisir. On a travaillé avec Paloma Pradal aussi, qui chante du gitan comme personne. Voilà.
Almadili aussi.
Almadili, voilà, les bons copains. Voilà, donc il y a du monde regroupé sur cet album. Et le batteur de la Caravan Pass est arrivé. Incroyable.
C'est bon, vous allez pouvoir jouer. Pas. On l'attendait, il est là. Instrument, du coup, tu ramènes aussi les sonorités. Ouais. Tu t'inspires de ces musiques que tu entends là-bas.
C'est ça, en fait. Moi, la façon dont j'écris dans la caravane les musiques, c'est toujours très influencé. C'est comme si je me dis, tiens, si je devais recréer une nouvelle musique, par exemple, d'ex-Yougoslavie, je vais recréer une mélodie avec de l'instrumentation, je vais le revisiter à ma façon, et après je vais rajouter des paroles là-dessus, la plupart du temps en français, mais pas que. Et qu'est-ce qu'on raconte dans ces cas-là? On raconte tout ce qu'on voit aujourd'hui avec ce point de vue du voyageur, finalement. Mmh. C'est-à-dire le point de vue touristique, le point de vue au sens noble du terme, c'est-à-dire le gars qui arrive, qui n'a pas forcément d'attache là où il est, et qui peut juste observer et constater ce qui se passe, ce qui fait que souvent on est un peu amusé par ce qu'on voit, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'humour aussi dans les textes et de choses comme ça. Quoi.
Comment vous travaillez? Tu crées la structure de base, paroles, structure de musique, tout le monde rajoute ses instruments au fur et à mesure, ou c'est un travail en commun?
Non, c'est un travail encore plus fasciste que ça, c'est-à-dire que je travaille beaucoup tout seul, et j'ai la chance d'avoir une équipe qui me fait confiance à 100%, okay. Et c'est un vrai plaisir de bosser avec eux pour ça. Ils me remettent en gros les armes. Moi je travaille beaucoup, j'ai besoin de pas mal de temps tout seul, et puis après je les appelle, je les convoque en disant tiens viens, on passe un petit peu de temps ensemble sur ce morceau, j'aimerais bien qu'on fasse ça, ils vont apporter des idées à ce moment-là, des choses comme ça. Mais je préfère parler avec les gens séparément qu'en groupe en général. Et voilà, moi je travaille plutôt de cette façon-là, et après il y a toujours Hughes qui est un des piliers du groupe, lui qui amène quelque chose, lui il est catalan de Perpignan, donc lui il amène des choses que moi j'amène pas, il réfléchit toujours à une petite compo ou deux, à des choses de son côté, et pareil on va travailler, je vais passer du temps avec lui pour essayer d'en faire une vraie prod et une vraie chanson.
Tu avais fait une pause avec la caravane, avec tous tes autres projets,
J'ai fait une micro-pause, c'est vrai, d'un an. Quand on a créé Soviet Suprême, parce que le label en fait et le tourneur m'avaient demandé, comme ils avaient financé un projet assez ambitieux, d'être entièrement disponible pendant un an pour Soviet, ce que j'ai fait. Et ensuite, ça a pu cohabiter les deux ensemble tout le temps. Ouais.
Là, t'es avec le label Atom sur cet album.
Cet album La Caravane. Il est chez Atom, tout à fait. Ouais, qui est un label indépendant de musique alternative qui se bat depuis toujours et qui a vraiment le mérite d'être là. Et,
Oui, oui.
Et de représenter du monde.
On reçoit beaucoup d'artistes de ce label qu'on diffuse à la radio. 20 ans à sillonner les routes, 20 ans, on n'est pas fatigué à force ? On garde la foi ?
Non, on n'est pas fatigué, on garde la foi parce que pour ce qui est des tournées à l'étranger, c'est vraiment par période. Des périodes, on va aller que au Moyen-Orient, des périodes, on va aller que en Océanie, des périodes. C'est marrant, ça se resserre sur différentes régions. Donc ça renouvelle aussi l'énergie. Et puis pour ce qui est entre nous cinq, on est comme des cousins en fait. C'est-à-dire que on n'a pas choisi de jouer ensemble. C'était des copains de copains, des gens que j'ai appelés comme ça au début, etc. À part le bassiste avec qui on était à la fac ensemble, tous les autres c'est vraiment des gens que je connaissais pas. Fait qu'on a appris à se connaître et à passer du temps ensemble. Et il y a beaucoup de respect. C'est cinq individualités fortes. Il y a beaucoup de respect des uns par rapport aux autres, comme avec des cousins vraiment. Un cousin, on n'est pas là pour le juger. C'est notre cousin, on l'a pas choisi et c'est comme ça.
Le fait de proposer une musique qui reste quand même universelle, hein, c'est de la musique du monde, ça t'aide de pouvoir jouer à l'étranger ?
Ouais, bah c'est en fait on a eu la chance, c'était au deuxième album qu'on avait fait, j'ai signé avec mon éditeur Métis Music qui est mon partenaire le plus stable et depuis le plus longtemps. Et Métis, ils ont commencé à dire nous on va essayer d'apporter ce qu'il n'y a pas, et ce qu'il n'y a pas c'est de l'étranger. Donc ils ont commencé à chercher des tourneurs et des labels à l'étranger. Et le premier pays qui avait accroché, c'était la Hollande. Et à l'époque, on avait sorti un titre qui s'appelait Salade Tomate Oignon, qui était un morceau un petit peu potache, mais avec un fond quand même sérieux derrière, mais fait sous une forme un peu humoristique. Et quand on avait fait ce titre-là, on est arrivé en France, les gens n'applaudissaient pas. C'est-à-dire que quand on a commencé à le jouer, comme ils étaient habitués à voir la Caravan Pass, ou ça joue quand même des musiques traditionnelles, et là on arrivait avec un morceau plus léger, le public français n'adhérait pas du tout. On a arrêté de jouer le morceau en concert. Le morceau, via notre éditeur, sort en Hollande, et là c'est un carton en radio nationale, il est matraqué là-bas, qui fait que pendant plus d'un an, on a presque plus tourné en Hollande qu'en France. C'est le premier pays qu'on a commencé à développer. Et de là, il y a eu un premier article qui est paru, qu'on a après matraqué un peu partout, où c'était écrit « La Caravan Pass, la Mano Negra des Balkans ».
Ok.
Ils mettaient ça comme sous-titre, en gros. Et donc, on s'en est servi pas mal, finalement, comme carte de visite sur l'étranger. C'est vrai que tout de suite, c'est très identifiable. C'est-à-dire, c'est de la world music made in France, en fait, quoi, en gros. Et effectivement, ça a permis de, ça nous a permis de beaucoup tourner à l'étranger.
Bon, on l'entendra pas ce soir, alors, le titre.
Du quel titre ?
De Salade Tomate.
Si, on le fait en version, on le fait en version fanfare.
Revisité.
Ouais, parce que non, c'est un titre après qui est revenu en France. Oui. On nous l'a beaucoup réclamé jusqu'à ce que nous-mêmes il nous fatigue. Nous fatigue nous-mêmes de jouer. Mais on finit toujours les spectacles en fait en brisant la frontière entre le public et nous. C'est-à-dire qu'on descend dans le public en fanfare. Ceux qui ne pratiquaient pas de cuivre ont appris à faire des cuivres pour ce moment du spectacle, et donc on rejoue à la fin dans le public des musiques traditionnelles et quelques compos comme Salade Tomate Oignon qu'on joue en version fanfare.
Ok, génial. Juste avant le warm-up de Solis qui est là.
Bonjour.
Tu t'occupes des interscènes, donc là ce soir ce sera avant Guts, après la Caravan Pass. J'imagine qu'on a une idée de ce qu'on va proposer, connaissant les deux styles musicaux qui vont être joués dans la soirée, pour faire la transition, pour garder le public chaud. Enfin, après la Caravan Pass, il va falloir envoyer quand même.
L'idée, alors moi je défendrai pas un style, je défendrai juste le fait d'être un filtre en fait, parce que moi j'écoute de la musique, j'en écoute beaucoup, j'en fais. Donc ce que vous avez écouté, c'est le résultat de ce que j'ai écouté. Donc soit, peut-être dans le meilleur des cas, vous connaîtrez, ou vous allez découvrir. Donc je pense que pour moi, ce rendu, il est essentiel. Et je pense que dans le travail du mix, enfin de DJ pour pas dire le nom, il est essentiel, parce que si c'est pour écouter ce que t'as sur ton téléphone, moi je vois pas trop l'intérêt en fait.
Et tu nous le disais pendant la pause musicale en off, et c'est d'être à l'écoute aussi de son public sur le moment donné.
Oui, c'est ça aussi, parce que quand je dis le filtre, après oui, effectivement, techniquement, c'est que le groupe va avoir l'énergie, enfin la Caravan Pass en l'occurrence, mais va avoir une énergie décuplée, parce que déjà il y a plusieurs personnes sur scène, bon, moi je suis tout seul, donc déjà l'énergie elle est démultipliée. Il faut aussi respecter ça, parce que c'est comme dans un concert aussi, on peut commencer de tambour battant, mais il y a une progression qui se fait, et les gens, faut les mettre dans une émotion, dans une ambiance, et les accompagner dans une sorte de fauteuil agréable dans lequel ils vont pouvoir écouter le concert de la meilleure manière. Alors c'est pas précis en termes de style, mais en tout cas c'est l'intention.
Est-ce que la présidente se demande des titres ?
Non. Non, j'estime que c'est pas mon rôle. Je choisis les artistes justement parce que j'aime leur travail. Mmh. Et donc après, du coup, c'est totale confiance.
Mmh. Il y a eu une réflexion avec le Secours Populaire sur les artistes ou c'est ton domaine ?
Non, moi aussi, je suis facho là-dessus. non, pas du tout.
Je choisis celle-là. Vous allez arrêter de m'utiliser ce terme-là. Hein. On n'est pas dans un festival de facho, là. Les gens, ils vont se dire quoi en vous entendant ?
Dictature, c'est pas mal.
Oui, en fait, je suis...
Allez, autocrate.
J'aime beaucoup... j'utilise beaucoup le terme de dictature démocratique au sein de l'association.
Ah oh, ouais, j'ai l'impression que je m'entends parler.
Mais c'est vrai, je le dis constamment. Non, en fait, le deal, si je puis dire, cette année avec le Secours Populaire ou l'année dernière avec la Ligue contre le cancer, c'est que l'ALPA s'occupe de la programmation purement artistique, donc soirée, etc., soirée d'ouverture, groupe, et le partenariat se fait aussi via les conférences, l'exposition. Voilà, c'est le Secours Populaire qui choisit sa thématique, qui choisit ce qu'il va proposer. Donc ça fait vraiment une programmation liée, voilà, pour que en fait tout le monde s'investisse, que les bénévoles aussi puissent se rencontrer, que les publics puissent se rencontrer aussi, et voilà, parce que ça pour nous c'est extrêmement important.
Alors justement, le Secours Populaire a décidé de parler de la Retirada. Il y a une exposition, il y aura demain une conférence dessus.
À 14h.
À 14h, la Retirada, l'ancêtre du Secours Populaire, a accueilli ses réfugiés espagnols. Donc ça, je ne le savais pas du tout.
Oui, tout à fait. Les gens pourront se rendre compte, en parcourant l'exposition, justement, tout l'accompagnement qu'a mis en place le Secours Populaire. Et qui finalement aujourd'hui se traduit parce qu'on n'a pas voulu rester centré que sur la période Retirada, et d'ailleurs ça se voit dans l'exposition, hein, parce qu'il y a une espèce de fil conducteur qui fait que on en arrive à aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu ce qu'on rappelait tout à l'heure par rapport au phénomène de migration. Et voilà, savoir comment on accueille, savoir comment on vit avec l'autre, savoir comment on découvre l'autre, comment on lui permet de pouvoir continuer à entretenir sa culture, parce que c'est important, s'acculturer, c'est perdre son âme quelque part. Donc voilà, c'est un petit peu cette thématique, et donc nous on l'a rattaché au département. Parce qu'il y a toute une histoire aussi liée à la Retirada. C'est pour ces raisons qu'on a demandé donc à l'ANACRE de faire cette conférence avec Nicolas Planche et Dany. Et ça va nous permettre justement d'établir un lien entre ce qu'a été ce passé et ce qu'il devient aujourd'hui. Et notamment aussi de mettre en exergue quelques personnages qui ont été importants justement par leur présence dans le département au moment donc justement de la Retirada. François Toscaïès, par exemple, pour ne citer que lui. Donc voilà, c'est ce lien qu'on souhaitait faire, et surtout pour ne pas oublier aujourd'hui à quel point il nous revient à nous Français la responsabilité de continuer à décliner les droits de l'homme. Et c'est ça quoi, hein, qui est à la fois traité par l'exposition et qui sera traité de même par la conférence.
Voilà, et on invite les gens à venir l'écouter, à aller visiter le camp d'internement de femmes à Riocro.
Oui.
Voilà, où il y a un parcours qui a été restauré il n'y a pas longtemps. On arrive quasiment à la fin de cette émission, il reste à peu près 5 minutes. Sabrina, tu peux nous dire un mot sur les artistes présents, déjà Guts, un petit mot sur Guts, et les artistes présents demain, parce que le festival c'est sur 2 jours. Hein.
Oui, tout à fait. On est super, super content d'accueillir Goetz. Ça fait un moment que j'en parle sur le territoire, notamment parce que vous connaissez mon attachement et mon implication au sein de l'association Des Tours du Monde. Ça aurait très bien pu être un artiste programmé sur Des Tours du Monde. Ça fait 3 ou 4 ans que j'en parle. Et là, en fait, ça s'est fait un peu sur un hasard. Je cherchais un artiste à programmer sur la soirée du Tour de France. Donc je me suis dit Goetz, sauf qu'il n'était pas dispo. Et en fait, c'est Goetz qui m'a mis sur la piste de Souliste. Okay. Voilà, c'est la famille. En fait, il m'a mis sur la piste de Souliste et de la Dame, en fait, qui vient jouer
d'accord,
demain.
D'accord, qui vient jouer demain.
Voilà, et en fait, j'ai écouté un peu plein de liens et tout. J'ai eu un gros coup de cœur pour Souliste et la Dame. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, il s'avérait qu'il était dispo ce 21 octobre. Et en plus, il sort son nouvel album aujourd'hui même.
Sonorité cubaine, hein, ce nouvel ouais. album, c'est ça?
Exactement. Je pense que ça va être du lourd.
Et sénégalaise.
Et sénégalaise.
Et française.
Et française.
Parce que c'est la réunion de 3 collectifs de musiciens, bah, principalement afro-cubains, mais donc de musiciens français avec notamment Florian Pellissier et dans les musiciens sénégalais. Bon, je ne connais pas leur nom, mais voilà. Bon, c'est cette rencontre-là qui fait que l'album inédit sort aujourd'hui. Voilà.
Ok.
Voilà. Et ensuite, on a donc demain à 21h aussi Electro Deluxe. Donc, c'est la tournée des 20 ans. Et c'est pas fait exprès.
Comme la caravane passe.
Ouais.
On est toute une génération.
Hein. Oui. Ouais. C'est pareil. On est super contents de les accueillir. Tous les musiciens de Lozère sont trop contents. Ça fait des années en fait qu'on parle de quand est-ce qu'on va voir Electro Deluxe à Mende. On y est arrivé. Voilà. Voilà. Donc c'est plus funk, soul, jazz. Voilà, ça joue quoi. C'est vraiment les deux soirées sont très fortes avec des styles très marqués. Donc
la Dame, on est plus sur du hip-hop.
Hip-hop, Afro house. Voilà. Ouais. Donc pour clôturer ce festival en fanfare, c'est parfait.
On a tous les instruments cette année. Il manque pas de piano. Il manque rien.
J'espère, j'ai reçu un coup de fil flippant sur du backline et surprise après cette émission.
Oui, mais ça c'est pour la caravane passe, ils peuvent jouer en acoustique, t'inquiète pas. Non, pas sûr.
20 minutes.
20 minutes.
James Boom, si tu nous écoutes, pense à ramener ton piano si on te reprogramme.
C'est ça. Merci beaucoup Sabrina. Alors la caravane passe, il va falloir venir à Mende ce soir parce qu'après c'est l'Espagne, hein, l'Allemagne et la Nouvelle-Calédonie. Donc
ça
sera plus compliqué pour voir. Donc c'est ce soir ou jamais.
Bah, ou l'année prochaine parce qu'on prolonge d'un an pour faire la tournée des 20 ans.
Ou l'année prochaine. Quoique des fois c'est plus rapide d'aller en Espagne que de venir en Lozère suivant où vous êtes situé. Voilà un petit message pour nos amis politiques. Ok, ben merci beaucoup d'être resté pendant cette heure-ci. On le rappelle, ce festival Culture et Solidarité, l'association L'un pour l'autre. Encore merci beaucoup Sabrina pour tout ce que tu fais pour ces associations et le Secours Populaire également pour tous les gens qui ont besoin de vous et davantage.
Merci beaucoup.
Merci.
Allez, merci beaucoup. Ben on va se quitter avec Electro Deluxe comme ça. Hop, tout le monde aura en tête les morceaux. Ciao, ciao.
Ciao.
There was jazz. Before there was jazz, there was blues. And before the blues, we was happy. Is everybody happy? You've never been happy. Clap your hands.
happy thing. Not a funk song. This song is not a long song. This song is a real song. You never can have it. You never can have it. Until you try. You never can have it. Gonna say it again. Here again. Y'all feel happy?